Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, sœurs auditrices et sœurs auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La voix d'Indonésie. Voici le journal. Les titres pour ce soir sont « L'Indonésie encourage le renforcement de la connectivité économique de la ZEM. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a rencontré le président de la Mongolie. L'Indonésie exhorte la paix en mer de la Chine méridionale. Rizal Ramli augmente la défense dans la région de Natuna. Ministre de la Défense a dit que les Philippines ont convenu que l'armée nationale indonésienne TNI peut arrêter les preneurs d'otages des citoyens indonésiens et l'observateur, la Chine ne peut plus faire la pêche illégale et les violations dans les eaux de Natuna. Et voici le journal complet. Le gouvernement indonésien va encourager les efforts de la réactivation de la coopération entre les pays membres du 11e sommet Asie-Europe, ASEM, en 2016, qui a lieu les 15 et 16 juillet à Ulaanbaatar en Mongolie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, lors d'une conférence de presse jeudi à Jakarta, a ajouté « En plus d'encourager l'intensification de la coopération économique des pays membres de la ZEM, l'Indonésie encouragera également l'intensification de la connectivité globale et inclusive des pays membres de la ZEM. » Insert Andi, tanggal 14 Juli, tentang Indonesia dorong penguatan konektivitas ekonomi ASEM. Concernant la connectivité dans ce cas, l'Indonésie voit la nécessité d'être encouragée la façon de regarder la connectivité globale et inclusive. Donc, il n'est pas seulement lié à la connectivité dans le contexte de l'infrastructure, mais aussi la connectivité économique, comme le commerce et l'investissement, les valeurs partagées, des valeurs communes, l'économie numérique et les gens aux gens. Donc, la connectivité est complète. Arman Atanasir a affirmé lors d'une réunion des pays Asie-Europe-ASEM en Mongolie, l'Indonésie souligne également l'importance de l'intensification de la coopération dans le domaine de l'éducation. Compte tenu la position de l'Indonésie en tant que secrétariat de l'éducation de l'ASEM pour la période 2013-2017. Au cours de la réunion, l'Indonésie demandera également un soutien pour accueillir les deux réunions dans le cadre de l'ASEM, à savoir la réunion des ministres des Transports de l'ASEM et la première réunion des jeunes entrepreneurs de l'ASEM. Le vice-président de la République d'Indonésie, Yusuf Kalla, a tenu une réunion bilatérale avec le président de la Mongolie, Sakia Elbekdorj, pour discuter du renforcement des relations et de la coopération entre les deux pays en Mongolie jeudi. Yusuf Kalla a été accompagné par le ministre adjoint des Affaires étrangères, A.M. Fahir, et l'ambassadeur d'Indonésie à la République populaire de Chine et la Mongolie, Sugeng Raharjo, a transmis les salutations chaleureuses du président Joko Widodo et félicitations pour l'organisation du 11e sommet de l'Asie-Europe en Mongolie. La déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Beijing, citée par Antara, a déclaré vendredi. Le vice-président a également souligné l'importance des deux pays à renforcer les relations de coopération, en particulier dans le commerce et l'économie. Cette année est le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Mongolie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie a exhorté toutes les parties prenantes liées au conflit dans la mer de Chine méridionale pour prioriser la paix dans la solution de cette question après qu'il y ait une décision de la Cour permanente d'arbitrage. Comme cité Antara, la ministre Retno Marsudi a déclaré mercredi que la position de l'Indonésie dans le conflit en mer de Chine méridionale est de prioriser l'importance du respect du droit international qui a été adapté, y compris UNCLOS en 1982. Elle a affirmé qu'avec la création de la paix et la stabilité dans la région de la mer de Chine méridionale, la croissance économique en Asie sera mieux que d'autres régions. Concernant le refus de la Chine contre la décision de la Cour internationale d'arbitrage qui a gagné les Philippines sur le conflit de la mer de Chine méridionale, la ministre Retno Marsudi a déclaré que l'Indonésie continuerait de surveiller cette question et l'Indonésie aurait soutenu la solution de ce conflit par la voie pacifique. Le ministre de coordination maritime Rizal Ramli a déclaré l'importance de l'augmentation des aspects de défense et de sécurité dans les eaux territoriales de Natuna, les îles de Riau, en particulier après l'existence du cas de la pêche illégale dans cette région. Le ministre Rizal Ramli veut que l'armée nationale indonésienne renforce effectivement la défense pour que cette région puisse également être maintenue efficacement. En outre, le gouvernement indonésien augmentera également la coordination entre les organismes d'application de la loi pour lutter contre la pêche illégale. Il a dit que la région des îles de Natuna est devenue stratégique parce que cette région est le territoire indonésien qui borde directement avec la Malaisie, le Vietnam et le Cambodge. Cette région est également la zone marine de l'Indonésie qui devient les principales lignes de transport maritime mondial, en particulier pour les navires à destination de Hong Kong, le Japon et la Corée du Sud. Le ministre de la Défense, Riamizar Triakudu, a dit que le gouvernement de l'Indonésie et les Philippines ont convenu sur la forme de la sécurité commune dans la mer de Sulu. Cette zone de l'eau est souvent utilisée comme l'endroit les actes de piraterie ainsi que l'otage par le groupe armé Abu Sayyaf. L'armée indonésienne pouvait entrer dans les eaux territoriales des Philippines s'il y a des citoyens indonésiens qui sont pris en otage, a déclaré Riamizar Triakudu au palais présidentiel à Jakarta jeudi. Mais le gouvernement de l'Indonésie et les Philippines ne sont pas encore convenus sur le modèle de sécurité sur le terrain. Cela est important si les Indonésiens qui sont pris en otage sont déjà entrés dans la zone de terre des Philippines. En attendant, un accord sur la sécurité sur les terres est décidé. Selon Riamizar Triakudu, TNI continuera à pratiquer des stratégies pour la libération des otages. L'observateur des relations internationales de l'Université Paramadina, Emil Radiansyah, a dit que la position de l'Indonésie, notamment dans les eaux de Natuna, plus renforce après la publication de la décision de l'arbitrage international sur Nine Dash Line de la mer de Chine méridionale. La décision d'arbitrage, selon Emil, plus renforcer la position de la souveraineté indonésienne. Dans ce cas, la Chine ne peut plus jouer avec l'Indonésie en faisant la pêche illégale et les violations dans les eaux indonésiennes. Emil Radiansyah, cité par Republika jeudi, a déclaré que la décision d'arbitrage pouvait également être le fondement de l'Indonésie pour renforcer la diplomatie et la position qu'ont l'Indonésie face à la Chine. Si à l'avenir la Chine viole à nouveau, l'Indonésie peut se référer à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, une clause, et des dispositions de l'Indonésie à prendre des mesures contre la Chine. Chers amis, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix d'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voequiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie. Sixième lantaine après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, le conflit en mer de Chine méridionale après le verdict de la Cour permanente d'arbitrage CPA. Le différend territorial dans les eaux de la mer de Chine méridionale peut encore être continu. La Cour permanente d'arbitrage CPA à La Haye, aux Pays-Bas, le mardi a pris la décision qui gagne des Philippines dans son différend avec la République populaire de Chine. Selon le juge, la Chine n'a aucun fondement juridique à maîtriser un certain nombre de deals contestés en mer de Chine méridionale. La revendication de la Chine qui a affirmé de contrôler Spratly et Paracel sur la base de l'histoire a été refusée. Les Philippines, qui se sont plaintes la Chine à la Cour permanente d'arbitrage en 2013, a déclaré à accepter et respecter la décision de la Cour de La Haye. Le gouvernement de Mani a estimé que cette décision est comme un nouvel élan pour résoudre la crise régionale dans la mer de Chine méridionale. Au lieu de cela, Pékin a rejeté la décision et considéré comme invalide. Pékin fait valoir que la Cour permanente internationale d'arbitrage n'a pas été autorisée à juger la question sur la souveraineté de l'État. Auparavant, la Chine a affirmé de ne pas être disposée à participer à la procédure à La Haye. Pékin fait valoir que l'histoire a revendiqué des centaines de kilomètres des zones maritimes et les îles comme ses zones territoriales. Les zones revendiquées étaient des centaines de kilomètres au sud de la province de Hainan, face à la mer de Chine méridionale. Depuis quelques années, Pékin a même construit une piste d'atterrissage pour les avions militaires dans les îles de Spratly. Outre de déclencher la tension avec les Philippines et le Vietnam, les actions de Pékin ont également attiré la participation des États-Unis. La Cour de La Haye évalue également que la Chine a violé la souveraineté des Philippines sur le territoire contesté, en particulier l'île Scarborough Shoal, qui est à la distance de 160 km de la partie continentale des Philippines. La Cour ne justifiait pas la Chine à creuser les ressources, à la fois l'huile ou des poissons, dans la région et les eaux contestées. Le rejet de Pékin sur la décision de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye est signe que le différend n'est pas fini. L'attitude de la Chine, qui était commencée avec son refus de participer à la justice, devient le déclenchement de l'émergence de nouveaux problèmes. L'escalation de cette crise peut conduire à des affrontements, comme cela est arrivé en 1974 et 1988 entre la Chine et le Vietnam. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditeurs, on vous présente maintenant notre programme quotidien aujourd'hui dans l'histoire de la Voix d'Indonésie de l'édition 15 juillet. On va commencer le 15 juillet 1916. Boeing a été fondé avec le nom Pacific Aero Products à Seattle, les États-Unis. The Boeing Company est un fabricant d'appareils et de l'aérospatial dont le siège est à Chicago, Illinois, avec son plus grand centre de production à Everett, Washington, près de Seattle, Washington. Il est également un entrepreneur de la défense et une composante de l'indice Dow Jones Industrial Average. Boeing a été fondé par William Edward Boeing, à l'origine un homme d'affaires et un boucheron sourcé, avec son collègue George Conrad Westerfeld le 15 juillet 1916. Il a fondé l'usine d'avion de la compagnie qui s'appelait alors Pacific Aero Products. Deux des principales divisions de Boeing Integrated Defense System et IDS, responsables des produits militaires et spatiaux, et avions Boeing Commercial BCA, responsable pour les avions civils. On va changer le 15 juillet 1996, assassinat de Gianni Versace. Le couturier italien est tué de deux balles dans le nuque sur le perron de sa villa de Miami aux États-Unis. L'assassin Andrew Cunanan a s'enfui aussitôt. Il sera retrouvé mort 9 jours plus tard, un suicide à quelques centaines de mètres de la résidence de Versace. Cunanan était recherché depuis 2 mois par les services de police américains pour 4 autres meurtres. À 51 ans, Gianni Versace a été connu et adulé pour tous les spécialistes de la mode. Il laisse aux mains de sa sœur Donatella un empire colossal. On termine aujourd'hui dans l'histoire, ce soir le 15 juillet 1974, Nicholas Sampson a été assermenté le titre de président. Nicholas Sampson est un journaliste et militant politique de Chypre. Il est né comme Nikos Georges Giadis, mais ensuite il a transformé en Sampson. Il a commencé sa carrière en tant que journaliste du Times de Chypre. Il est membre de l'EOKA et depuis lors, il a changé son clan. En 1970, Sampson est devenu membre du Parlement de Chypre. Il a participé au coup d'État contre l'archevêque Makarios et a été nommé président pendant 2 jours. À partir du 15 jusqu'au 23 juillet 1974, en 1976, Sampson a été reconnu coupable de trahison et condamné à 20 ans de prison. Il a obtenu la permission de quitter le pays pour le traitement du cancer en France. Après avoir été libéré de prison en 1992, il a retourné travailler dans le journalisme. Ces auditeurs auditifs, c'était l'histoire d'aujourd'hui, ce soir.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir. Voici donc la mise au point ayant pour le titre « L'otage des citoyens indonésiens se produit ». Dans un délai de 6 mois, il y a 4 fois que les citoyens indonésiens ont pris en otage par le groupe Abu Sayyaf aux Philippines. Comme rapporté par Antara, le 9 juillet autour de 23h30 heure locale, le chalutier LLD 113-5F avec le drapeau de Malaisie a pris en embuscade un groupe armé dans les eaux autour de la zone Felda Sahabat, Tunku Lahat Datu, Malaisie. Sur les 7 membres d'équipage qui ont été pris en embuscade, 3 citoyens indonésiens ont été enlevés et 4 ressortissants malaisiens sont libérés. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a affirmé au ministère des Affaires étrangères à Jakarta lundi 11 juillet 2016 que l'action d'otages par des groupes armés contre l'équipage de l'Indonésie dans les eaux frontalières de la Malaisie et les Philippines ne peuvent plus être tolérées pour une raison quelconque. Par conséquent, des efforts sérieux doivent être faits immédiatement, soit par le gouvernement des Philippines et le gouvernement de la Malaisie. Retno Marsudi a affirmé, le gouvernement indonésien est prêt à coopérer dans les efforts de libération d'équipages en otage dans le temps le plus tôt possible. Retno Marsudi a ajouté, la sécurité de l'otage de l'équipage du sein indonésien est la principale priorité dans cette mission de sauvetage. Concernant cette question, le ministre indonésien de coordination des politiques juridiques et de sécurité, Luhut Binsar Panjaitan, a affirmé que la communication avec les Philippines continue à faire pour libérer les 10 citoyens indonésiens retenus en otage par Abu Sayyaf. Le président Joko Widodo a également téléphoné et envoyé une lettre au président philippin Rodrigo Duterte. Luhut n'est pas disposé à expliquer ce qui était discuté lorsque le président a téléphoné et a envoyé la lettre à Duterte. Cependant, il est sûr que les efforts diplomatiques entre les deux chefs d'État produiront des résultats positifs. Luhut Panjaitan a ajouté que l'opération militaire serait la dernière option prise par le gouvernement à libérer des citoyens indonésiens qui sont victimes en otage par le groupe Abu Sayyaf. D'autre part, le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que chaque effort visant à libérer les otages des citoyens indonésiens, à la fois en Malaisie et aux Philippines, est toujours plein de risques. De sorte que le gouvernement espère que les familles des victimes et la communauté confient au gouvernement. Yusuf Kalla, au palais du vice-président à Jakarta, a déclaré mardi que le gouvernement avait été trop tolérant envers les ravisseurs. Cela a été fait parce que le gouvernement priorise la sécurité des citoyens qui sont pris en otage. Yusuf Kalla espère que le gouvernement de l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines peuvent résoudre ensemble ces risques. Pendant ce temps, un expert en droit international, Hikmahanto Juwana, a dit que le gouvernement n'a pas besoin d'impliquer les militaires pour libérer les citoyens qui sont actuellement retenus en otage dans le sud des Philippines. Il estime que les opérations militaires auront des effets négatifs si à l'avenir le cas de l'otage se produira. L'Indonésie peut être considérée comme un ennemi qui doit être combattu par le groupe armé. Il dit que la meilleure solution à ce moment est de pourparler entre le gouvernement indonésien et les rebelles sans impliquer le choix de rançon et de l'action militaire. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie. Voici le journal. Les titres pour ce soir sont l'Indonésie encourage le renforcement de la connectivité économique de l'ASEM. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a rencontré le président de la Mongolie. L'Indonésie exhorte la paix en mer de la Chine méridionale. Rizal Ramli, augmenter la défense dans la région de Natuna. Ministre de la Défense a dit que les Philippines ont convenu que l'armée nationale indonésienne TNI peut arrêter les preneurs d'otages des citoyens indonésiens. Et l'observateur, la Chine ne peut plus faire la pêche illégale et les violations dans les eaux de Natuna. Et voici le journal complet. Le gouvernement indonésien va encourager les efforts de la réactivation de la coopération entre les pays membres du 11e sommet Asie-Europe, ASEM, en 2016, qui a lieu les 15 et 16 juillet à Ulaanbaatar, en Mongolie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, lors d'une conférence de presse jeudi à Jakarta, a ajouté en plus d'encourager l'intensification de la coopération économique des pays membres de l'ASEM, l'Indonésie encouragera également l'intensification de la connectivité globale et inclusive des pays membres de l'ASEM.
Terkait dengan konektivitas, dalam hal ini Indonesia melihat
Concernant la connectivité dans ce cas, l'Indonésie voit la nécessité d'être encouragée, la façon de regarder la connectivité globale est inclusive. Donc, il n'est pas seulement lié à la connectivité dans le contexte de l'infrastructure, mais aussi la connectivité économique, comme le commerce et l'investissement, les valeurs partagées, des valeurs communes, l'économie numérique et les gens aux gens. Donc, la connectivité est complète. Arman Atanasir a affirmé, lors d'une réunion des pays Asie-Europe-ASEM en Mongolie, l'Indonésie souligne également l'importance de l'intensification de la coopération dans le domaine de l'éducation. Compte tenu de la position de l'Indonésie en tant que secrétariat de l'éducation de l'ASEM pour la période 2013-2017, au cours de la réunion, l'Indonésie demandera également un soutien pour accueillir les deux réunions dans le cadre de l'ASEM, à savoir la réunion des ministres des Transports de l'ASEM et la première réunion des jeunes entrepreneurs de l'ASEM. Le vice-président de la République d'Indonésie, Yusuf Kalla, a tenu une réunion bilatérale avec le président de la Mongolie, Sakia Elbekdorj, pour discuter du renforcement des relations et de la coopération entre les deux pays en Mongolie jeudi. Yusuf Kalla a été accompagné par le ministre adjoint des Affaires étrangères, A.M. Fahir, et l'ambassadeur d'Indonésie à la République populaire de Chine et la Mongolie, Sugeng Raharjo, a transmis les salutations chaleureuses du président Joko Widodo et félicitations pour l'organisation du 11e sommet de l'Asie-Europe en Mongolie. La déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Beijing, citée par Antara, a déclaré vendredi. Le vice-président a également souligné l'importance des deux pays à renforcer les relations de coopération, en particulier dans le commerce et l'économie. Cette année est le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Mongolie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie a exhorté toutes les parties prenantes liées au conflit dans la mer de Chine méridionale pour prioriser la paix dans la solution de cette question après qu'il y ait une décision de la Cour permanente d'arbitrage. Comme cité Antara, la ministre Retno Marsudi a déclaré mercredi que la position de l'Indonésie dans le conflit en mer de Chine méridionale est de prioriser l'importance du respect du droit international qui a été adapté, y compris UNCLOS en 1982. Elle a affirmé qu'avec la création de la paix et la stabilité dans la région de la mer de Chine méridionale, la croissance économique en Asie sera mieux que d'autres régions. Concernant le refus de la Chine contre la décision de la Cour internationale d'arbitrage qui a gagné les Philippines sur le conflit de la mer de Chine méridionale, la ministre Retno Marsudi a déclaré que l'Indonésie continuerait de surveiller cette question et l'Indonésie aurait soutenu la solution de ce conflit par la voie pacifique. Le ministre de coordination maritime Rizal Ramli a déclaré l'importance de l'augmentation des aspects de défense et de sécurité dans les eaux territoriales de Natuna, les îles de Riau, en particulier après l'existence du cas de la pêche illégale dans cette région. Le ministre Rizal Ramli veut que l'armée nationale indonésienne renforce effectivement la défense pour que cette région puisse également être maintenue efficacement. En outre, le gouvernement indonésien augmentera également la coordination entre les organismes d'application de la loi pour lutter contre la pêche illégale. Il a dit que la région des îles de Natuna est devenue stratégique parce que cette région est le territoire indonésien qui borde directement avec la Malaisie, le Vietnam et le Cambodge. Cette région est également la zone marine de l'Indonésie qui devient les principales lignes de transport maritime mondial, en particulier pour les navires à destination de Hong Kong, le Japon et la Corée du Sud. Le ministre de la Défense, Riamizar Triakudu, a dit que le gouvernement de l'Indonésie et les Philippines ont convenu sur la forme de la sécurité commune dans la mer de Sulu. Cette zone de l'eau est souvent utilisée comme l'endroit les actes de piraterie, ainsi que l'otage par le groupe armé Abu Sayyaf. L'armée indonésienne pouvait entrer dans les eaux territoriales des Philippines s'il y a des citoyens indonésiens qui sont pris en otage, a déclaré Riamizar Triakudu au palais présidentiel à Jakarta jeudi. Mais le gouvernement de l'Indonésie et les Philippines ne sont pas encore convenus sur le modèle de sécurité sur le terrain. Cela est important si les Indonésiens qui sont pris en otage sont déjà entrés dans la zone de terre des Philippines. En attendant, un accord sur la sécurité sur les terres est décidé. Selon Riamizar Triakudu, TNI continuera à pratiquer des stratégies pour la libération des otages. L'observateur des relations internationales de l'Université Paramadina, Emil Radiansyah, a dit que la position de l'Indonésie, notamment dans les eaux de Natuna, plus renforce après la publication de la décision de l'arbitrage international sur Nine Dash Line de la mer de Chine méridionale. La décision d'arbitrage, selon Emil, plus renforcer la position de la souveraineté indonésienne. Dans ce cas, la Chine ne peut plus jouer avec l'Indonésie en faisant la pêche illégale et les violations dans les eaux indonésiennes. Emil Radiansyah, cité par Republika jeudi, a déclaré que la décision d'arbitrage pouvait également être le fondement de l'Indonésie pour renforcer la diplomatie et la position qu'ont l'Indonésie face à la Chine. Si, à l'avenir, la Chine viole à nouveau, l'Indonésie peut se référer à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, une clause, et des dispositions de l'Indonésie à prendre des mesures contre la Chine. Chers amis, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix d'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voequiz2016@gmail.com. avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique du magazine culturel. Ce soir, nous allons visiter Sulawesi Central. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie. La ville Donggala, capitale de la région Donggala à Sulawesi Central, sera projetée ville touristique en octobre prochain car elle devient destination touristique importante dans quelques prochaines années. Donggala, comme vieille ville à Sulawesi Central, est connue dès le passé comme ville commerciale. De plus, la ville Donggala possède très grand potentiel touristique varié, soit les plages, la beauté sous-marine, le panorama naturel et l'art et la culture de la communauté. Pour visiter la plage et la beauté de la nature sous-marine, Donggala a le site Tanjung Karang qui est si populaire. Tanjung Karang a une belle plage de sable blanc, le parc marin qui peut être apprécié avec la plongée en apnée et la plongée. Outre Tanjung Karang, Donggala a aussi la plage Bambarano. Les plages de sable blanc sont belles avec une toile de fond. Sa beauté est assimilée à un morceau de paradis caché. La plage est située dans le village Sabang, district d'Amsol, Donggala, vers la région de la côte ouest. Le voyage de la ville Palu, capitale de Sulawesi Central, pourrait être atteint pendant environ 3h30 en utilisant soit un véhicule à 4 roues et 2 roues. En arrivant sur le site touristique, vous serez facturé pour le stationnement 2000 rupiah pour les véhicules à 2 roues et 10 000 pour les véhicules à 4 roues. L'étendue du site touristique de la plage Bambarano est 1 hectare avec du sable blanc et fin. Différents types d'arbres typiques de la côte se dressent fermement sur la plage. Les arbres servent une sorte de belvédère naturel. Plage Bambarano est très claire, pas de boue, pas d'herbe, de feuilles ou déchets flottants qui dérangent les visiteurs pour profiter de la mer. Vous pouvez nager jusqu'à 50 mètres vers la mer au large de la mer Sulawesi, principalement avant 11 heures quand l'eau recule. En raison de la faible profondeur, le sable blanc est clairement visible. En plus du sable blanc, cette plage a aussi une icône distincte qui n'appartient pas d'autres plages en Indonésie. Rocher imposant et envahi par les arbres est devenu l'une des attractions de cette plage. Ces blocs sont également devenus une réunion d'eau de mer et d'eau douce. Pour vous amateurs de plongée en apnée et la plongée, vous pouvez faire de la plongée sous-marine et autant ici. Les récifs coralliens sont encore préservés et habités par des centaines d'espèces de poissons de mer est devenu un paradis. Pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas nager ou faire de la plongée, vous pouvez prendre des photos avec le rocher comme fond. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant sur l'Indonésie. Merci de votre fidélité. À demain.
couleur, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs et auditrices des quatre coins du monde, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur et en pour titre l'étal électronique. Chers auditeurs, récemment, la ministre indonésienne des Affaires sociales, Khofifa Indar Parawansa, a lancé Warung électronique ou Angnetal électronique ou Iwarung au village Tanjung Sekar, Lowok Waru, Malang, en province de l'Est de Java, pour les bénéficiaires de l'aide du programme de la famille d'espoir. Cet étal, certes, a contrôlé l'utilisation de l'aide du gouvernement pour la bonne cible. Avec Iwarung ou ISOF, les bénéficiaires de l'aide pourraient dépenser l'argent pour les besoins de base et n'est pas pour d'autres besoins inutiles pour que l'aide gouvernementale puisse être ciblée précisément. Serge Ritter, l'étal électronique est un lieu du bénéficiaire d'aide gouvernementale de dépenser son argent de l'aide gouvernementale pour les besoins de vie. Le bénéficiaire d'aide du gouvernement de la famille d'espoir est tenu d'avoir un compte bancaire. À travers ce compte bancaire, diverses aides gouvernementales seront distribuées. La distribution de l'aide du gouvernement à travers ses comptes personnels vise également à empêcher l'existence du découpage de l'aide par certains éléments, de sorte que l'aide est plus ciblée. L'étal électronique vend quatre types de matières premières, à savoir l'huile, le riz, la farine, le sucre et les produits des groupes d'affaires communes ou KUBE. La transaction dans l'étal électronique utilise la carte de la banque BNI. La gestion de cet étal sera en synergie avec KUBE. Chers auditeurs, actuellement, le gouvernement indonésien prépare l'étal électronique à 34 régions et villes jusqu'à septembre 2016. En 2017, l'étal électronique peut toucher 100 régions et villes en Indonésie. Cette année, à l'échelle nationale, le gouvernement a versé les fonds du programme de la famille d'espoir de 9,8 trillions rupiah et l'aide sociale du riz pour la famille prospère de 21,9 trillions rupiah. Le montant potentiel des finances liées à l'aide sociale rend la banque BNI d'être intéressée à exploiter le marché de la classe inférieure, si bien que les gens peuvent faire la transaction dans l'étal en utilisant la carte de la banque BNI. Chers auditeurs, c'est l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers fidèles amis de la Voix de l'Indonésie, dans quatre coins du monde, voici le magazine de musique édition de vendredi avec moi, Mohamed Soehartono. Dans ce magazine, vous pouvez avoir des informations de tel ou tel genre musical en Indonésie, ainsi que des musiciens. Comme chaque vendredi, on vous présente le rythme de dangdut. Et pour ce soir, avec le chanteur Chacha Handika. Bon, chers fidèles amis, bon, comme le début de notre rencontre, allez écouter la première chanson de Chacha Handika intitulée Termenung. Bonne écoute. Chers amis, le vrai nom de Tata Dika est Tata Hermanto. Et vous savez, outre de chanter, il est aussi comme comédien. Et vous avez aussi ses chansons, Undangan Palsu, Mandi Kembang et Bakar Kemenyan, apportent le nom de Tata Dika plus célèbre qu'avant. Tata Dika, il est multitalent. Il est aussi doué à fabriquer le batik et dessiner le motif de batik. Actuellement, il est actif dans quelques programmes télévisés ainsi que comme acteur dans certains films depuis 2006. Chers amis, pour animer notre soirée, écoutez donc la chanson de Tata Dika, c'est-à-dire la deuxième chanson, intitulée « Semua Tahu ». Bonne écoute. Chers amis, outre de chanter et jouer dans le film, Chacha Handika est aussi comme compositeur de dangdut. Et il y a le moment intéressant pour lui. À propos des élections présidentielles 2014, il participe en soutenant un des candidats. D'après lui, sa participation est pour animer la démocratie en Indonésie. Avec la grande moustache, Chacha Handika montre sa personnalité qui est différente que les autres musiciens de dangdut. Voilà, le magazine de musique avec musicien Chacha Handika. Et avant de vous quitter, allez encore écouter deux dernières chansons intitulées « Sedih Sekali » et « Pesan Perpisahan » de Chacha Handika. Merci de votre fidélité et attention. Au revoir.
Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4 S5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.